Le château de Vassivière regroupe des styles architecturaux de différentes époques. À la maison bourgeoise du XVIIe siècle, héritée de sa famille, Léonard Louis Vassivière a fait ajouter entre 1871 et 1888 deux tours carrées et deux corps de bâtiments. Cette nouvelle bâtisse néogothique s'inscrit par le réemploi de pierres sculptées dans la mode romantique du XIXe siècle et dans l'esprit des restaurations médiévales de Viollet-le-Duc. Dans les années 1930, Jean-Pascal Vassivière, la fille de Léonard-Louis Vassivière, entreprend de grands travaux de transformation du château. Elle fait ajouter le décor de salamandre au-dessus de la porte d'entrée et l'imposante tour carrée crénelée qui prolonge l'aile gauche du château en 1948. La famille Vassivière doit céder une grande partie de ses terres pour la construction du barrage, mais elle conserve l'île et son château jusqu'en 1977. Christian Cotte, descendant de la famille Vassivière, nous parle de cette époque au micro de Sébastien.
De ma jeunesse, que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir.
Alors, en premier, bon, on voudrait savoir, parce que vous avez habité à l'île de Vassivière, oui?
Oui, oui, oui.
Et dans quoi, les années 50, les années avant les...
Les années avant, puisque je suis, dès l'année de ma naissance, je suis né, pour ne rien vous cacher, en 1945, et dès cette année-là, j'ai pratiqué la Vassivière. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas encore le barrage. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avant le barrage, mais j'en ai quand même quelques-uns qui m'ont marqué. Et puis, donc, j'ai habité Vassivière jusqu'au moment où le syndicat mixte de Vassivière a repris les lieux.
Ok, très bien. Alors, par rapport à la création du lac, voilà, par rapport à la transformation, tu vois, des les deux villes qui ont été englouties, bon, un petit parti de Nergou, mais l'autre, la Villecroix, c'est ça, la ville...
Villecroix.
La Villecroix, tu
Villecroix,
vois. Est-ce que vous connaissez des gens, vous savez, et vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ces gens, ou la problématique, pour, tu vois, pour donner lieu au lac.
Alors, Villecroix était comme beaucoup d'autres hameaux, comme Nergou, comme... la Jacine, etc. C'était des petits hameaux de quelques maisons qui dépendaient d'une commune qui était soit sur la Haute-Vienne avec Beaumont-du-Lac, soit sur Royères, qui ne s'appelait pas encore Royères de Vassivière. Et Villecroix, par exemple, il y avait des activités agricoles, bien sûr, mais en même temps, il y avait un charron qui fabriquait les roues de charrettes, qui fabriquait les charrettes. Et quand le lac, la dernière vidange du lac a eu lieu, on retrouvait dans le périmètre de la maison du charron, j'ai retrouvé des fers de charrue, des fers qui servaient à cercler soit les moyeux, essentiellement les moyeux. Et ayant trouvé ce fer, j'ai eu le premier réflexe, je me suis dit « je vais le garder à titre de souvenir ». Et puis, à la réflexion, je me suis dit, mais c'est idiot, je le laisse à titre de témoin du passé, et je l'ai laissé dans le secteur qui était probablement celui de l'atelier du charron. Je n'ai pas vraiment de souvenir très précis de l'emplacement de son atelier, mais par contre, il y a d'autres maisons. Il y avait notamment une maison une maison de maître, où on voit encore le carrelage de la cuisine ou de l'entrée en carreaux noirs et blancs. C'est assez surprenant parce que l'on retrouve, on ferme les yeux, et à ce moment-là, les murs se remontent, et puis les personnes s'animent. Il y avait dans ce secteur aussi quelque chose de particulier, ce qu'on appelait les planches. Alors en fait, les planches, c'était simplement une dalle plate de granit, ce qui est quand même assez peu fréquent, mais enfin il y en avait quelques-unes, elle était certainement taillée quand même, pour permettre de franchir la rivière. Voilà, et puis ensuite, sur Villecroix, il y avait également un moulin, un petit moulin. Il y avait beaucoup de petits moulins sur les rivières, des moulins qui faisaient un petit peu de mouture, mais essentiellement de taille moyenne, Il y en avait un à La Jacine, alors c'est plutôt côté Royère. Et le meunier qui conduisait le moulin de La Jacine avait aussi en parallèle une petite exploitation agricole. Et il avait, pour vous donner la taille de l'exploitation, ça fait sourire maintenant, mais c'était très important à l'époque, il avait deux vaches en complément pour vivre et puis pour assurer sa subsistance. Il y avait bien sûr Nergou qui est un ancien village dont on voit maintenant, quand le lac se retire, uniquement une entrée de cave. Je sais qu'elle a été beaucoup photographiée lors de la dernière vidange du lac. Nergou était un tout petit hameau aussi où il y avait quelques exploitations agricoles. On y faisait essentiellement, on y élevait parfois des vaches, mais il y en avait assez peu. Il y avait surtout des moutons et des porcs. C'était les deux activités principales. Le porc essentiellement parce que c'était une viande qui, une fois salée ou conservée dans la cendre, se conservait assez bien. Donc ça permettait la subsistance des personnes qui vivaient là. On retrouve sur la presqu'île de Chassagna, tout à fait dans le fond de la presqu'île, des petits chemins creux, des hameaux, enfin des maisons ou des abris plutôt qui ont été démolis. On en voit un peu les fondements, mais il y a très très peu de choses. Il reste quand même quelques souvenirs de ce passage. Du côté de Crozat, il n'y avait pas, c'était surtout marécageux. Et après, on allait sur Offel. Alors Offel était beaucoup plus important, c'était vraiment le bourg où il y avait d'une part l'école, ce qui était relativement grande, puisque cette école avait plusieurs enfants. Et pendant la guerre, j'ai des frères et sœurs qui allaient tous les jours de Vassivière à Offel, à pied, à l'école, avec d'autres enfants d'exploitants de Vassivière. La famille, entre autres, la famille de Cournay. Cette école était pas très grande. Quand on la voit encore, on voit sur le fronton d'un des immeubles, enfin d'une des maisons plus exactement, d'Offel, on voit encore marqué « école » dessus. Mais c'est maintenant devenu bien sûr privé. Les souvenirs de ceux qui y sont passés font que cette école, l'hiver, il fallait amener sa bûche parce qu'il fallait alimenter le poêle. C'était le seul moyen d'avoir un peu de chaleur. Et puis, il y avait également une personne à la maison qui jouxtait quasiment l'école qui assurait le repas de midi, enfin, entre autres, une soupe chaude, parce que les temps étaient, enfin, les hivers ont été particulièrement rudes à cette époque et on n'avait pas les températures que l'on a maintenant où le gel est quand même relativement peu fréquent. Mais là, c'était vraiment très dur. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans le secteur ? Il y avait le moulin de Vassivière. Donc ce moulin était essentiellement destiné au démarrage, à la mouture du grain. Mais il avait une deuxième fonction qui était non moins importante, qui était de produire de l'électricité. Et il produisait de l'électricité pour Vassivière directement. Et ces turbines avaient été installées parce que Pierre-Pascal Vassivière avait une industrie en Savoie où il fabriquait de l'aluminium et des alliages donc avec des fours électriques. Et ces fours, bien sûr, étaient devenus de plus en plus gros, de plus en plus importants au fil de l'exploitation et des besoins de l'industrie, notamment pour l'aviation qui s'est développée, qui avait besoin de matériaux légers comme l'aluminium. Donc les puissances électriques installées étaient de plus en plus importantes et qu'il a fallu changer donc tout ce matériel. Et c'est une récupération de ces matériels qui a pu faire en sorte que le moulin de Vassivière a été électrifié et qu'il alimentait le château et les fermes. Ça a été une révolution, l'installation d'électricité, parce que c'était quelque chose d'excessivement nouveau, et que la grande crainte de ceux qui n'avaient pas connu l'électricité, mais que la bougie, ou quasiment que la bougie, était que ça mette le feu. Bon, petit à petit, cette crainte s'est estompée, mais le courant du moulin était insuffisant parce que c'était du courant continu, et qu'il ne permettait pas de faire fonctionner les transformateurs pour les postes de radio. Il fallait du courant alternatif. Donc il avait été installé du courant alternatif. En quelle année le courant alternatif est arrivé à Vassivière, je ne saurais pas le dire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au démarrage, c'était un courant alternatif de 25 périodes. C'est-à-dire qu'il changeait 25 fois le sens du courant, alors que le courant classique habituel et actuel est toujours de 50 périodes. Donc, on avait un petit scintillement sur les lampes, qui était à peine remarquable, mais quand même qui était très, très perceptible. Tous ces éclairages qui pouvaient fonctionner avec ce courant électrique, soit du moulin, soit alternatif, étaient bien appréciés quand même, parce que par rapport à la bougie, le meunier, lui, assurait la régularité de la production d'électricité, mais il commençait, comme je dirais à l'époque, tous les paysans, ils commençaient très tôt le matin, pratiquement dès le lever du jour. Mais par contre, le soir, à 9h, il commençait à faire quelques baisses de tension pour montrer qu'il allait bientôt tout arrêter. Donc il fallait se précipiter pour aller dormir et éviter de trimballer des bougies, parce que, enfant, la confiance évidemment des adultes était un petit peu limitée dans les gestes qui pouvaient être désordonnés, renverser une bougie et mettre le feu. Le feu était quelque chose qui était craint énormément, puisqu'il y avait beaucoup de bois dans les maisons pour isoler. On ne connaissait pas le polystyrène ou les matériaux actuels d'isolation. La radio, l'arrivée, par contre, alors au début du lac, la mise en eau s'est faite donc progressivement, et il y avait des petits passages. Au démarrage, c'était la rivière, le lit de la rivière qui a grossi un petit peu. On pouvait encore passer sur les ponts, notamment sur le pont de Chassagna, dont qui a été photographiée de nombreuses fois. Une partie du parapet du pont de Chassagna, qui reliait donc Chassagna à Vassivière, a été démolie, enfin pas démolie, mais était cassée. Ce pont de Chassagna, ce parapet, n'a pas été cassé au moment des travaux de mise en eau du barrage, mais simplement à la suite d'un gel excessivement important dans les années 40, qui a fait dilater la pierre et les joints et qui a renversé une partie du parapet.
Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé.
Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous avez entendu par rapport aux paysans et votre famille aussi, les pros et les contres de cette arrivée, tu vois, du lac, du barrage?
Alors, les pros, je n'en connais pas beaucoup. Les contres, ben, c'est sûr que ça a été un bouleversement considérable, parce que tous ceux qui vivaient là ont été obligés de changer de vie, si je puis dire. Certains arrivaient peut-être à l'âge de la retraite et ont profité de cette opportunité pour pouvoir reconstruire ailleurs. Mais pour beaucoup, ça a été un déchirement. Et ce que l'on oublie parfois et qu'on oublie de mentionner, c'est qu'il y a eu quand même un paysan qui n'a pas résisté et qui s'est suicidé au tout début de la mise en eau de Vassivière. Donc ça a été vraiment un déchirement. EDF a fait tout ce qu'il pouvait pour accompagner la démarche, parce qu'il y avait vraiment besoin d'électricité pour le développement du pays. C'est un projet ancien qui datait d'avant-guerre, dans les années 30, et qui avait été mis sous le boisseau, bien sûr, à cause de la guerre, mais réactivé tout de suite après. Il y a eu une opposition farouche. Je pense qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la pression, je dirais, écologique qui existe, je ne sais pas si le lac serait refait. Mais toujours est-il qu'il a été fait et que, avec le recul du temps, personnellement, je peux penser que c'est vraiment une chance pour Vassivière d'avoir eu ce lac, parce que sinon, les terres étaient quand même pas très très fertiles. C'est vrai que les plus fertiles étaient dans les fonds bien irrigués, mais qu'il y avait quand même de la difficulté à vivre uniquement de l'agriculture. Et que par contre, le tourisme a été très vite développé par deux pôles du côté d'Offel. Le premier, c'était le Touring Club de France qui avait développé une base nautique qui a tout de suite été assez prisée. Et puis également, le monsieur Léra, qui était un Parisien qui avait eu des problèmes de santé, autant que je me souvienne, s'était installé et avait cru en l'installation au bord de l'eau. Il avait notamment réaménagé tout un secteur qu'EDF avait construit provisoirement pour les ouvriers du barrage, qui étaient des douches, et puis il devait y avoir aussi des bungalows ou des logements provisoires pour leur permettre de dormir. Donc il a, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'énergie, créé ce qu'on appelle toujours maintenant l'escale. Ça n'a pas changé de nom. Et c'est M. Léra qui a été le premier à essayer de bénéficier de l'opportunité que présentait le lac. Il a notamment développé une activité de pédalo, puisque le Touring Club s'était essentiellement des voiliers. Et très vite, il a pu tirer son épingle du jeu, mais non sans difficulté et sans mal de sa part. Ça a été un grand bouleversement aussi pour les paysans, notamment dans l'île de Vassivière, qui étaient habitués à être plutôt des terrestres, qui, ma grand-mère, Jeanne-Pascal Vassivière, avait acheté des bateaux à Lyon, au Sauveteur du Rhône. C'était des bateaux qui étaient très bien profilé, notamment pour des vagues importantes, pour des remous du Rhône. Et ça s'articulait bien sur le lac parce que quand il y a des forts vents d'ouest, il y a des vagues et il fallait des barques qui tiennent bien le coup. Donc ces paysans se sont, sans avoir jamais appris à nager, se sont apprivoisés marins et ont piloter les barques, d'une part de façon utilitaire pour aller de Vassivière à Chassagna, d'autre part, très souvent, il leur est arrivé d'aller repêcher ou aider à se sortir de situations difficiles, des voiliers qui avaient chuté et qui avaient les voiles dans l'eau, c'était très lourd, ils ne pouvaient pas les redresser, etc. Et j'ai encore le souvenir d'un récit, ce qu'on peut appeler quand même un sauvetage, où un des paysans racontait qu'il avait vu le voilier s'aventurer devant Croza, un coup de vent est arrivé, et ils avaient bien, selon son expression, ils avaient bien eu tôt fait baisser les draps, comprenez les voiles, il a fallu qu'ils viennent à leur secours, parce que malgré tout, ils avaient chaviré. L'exploitation agricole qui couvrait à la fois donc Vassivière et Chassagna a été bien sûr isolée et que du fait que l'impossibilité de passer des vaches ou autres d'un côté à l'autre sans faire un très grand détour parce que la route qui faisait le tour du lac n'existait pas, il a été attribué par l'EDF un bac qui permettait de transporter à la fois un tracteur et une grosse charrette de foin ou des vaches qui faisaient un petit tour de bateau et qui allaient d'un côté, d'une rive à l'autre. C'est vrai que la distance entre Chassagna et Royère était pas très grande. Enfin, Royère, Chassagna était pas très grande. Mais il fallait, bien sûr, pouvoir transiter rapidement et faire transiter des bêtes à pied. C'était impossible. Enfin, à pied, sans support autre qu'un transport en commun, si je puis dire, de bêtes, c'était impossible. Voilà pour cet épisode.
Alors, Madame et Jean-Pascal Vassivière a, selon j'ai compris, faire l'intermédiaire un peu. Bon, elle a vendu des terres à EDF pour la construction, mais aussi il a voulu rester sur l'île.
a fait, tu vois, a fait que, bon, je ne sais pas, EDF qui a construit les ponts, tu vois, et n'a pas vendu tout de suite. Elle a fait un peu l'intermédiaire, non, avec des paysans. Ou, comment c'était? Qu'est-ce que vous rappelez? Qu'est-ce que vous connaissez un peu des...
Alors, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu, au préalable de la mise en eau, des discussions concernant la... le désenclavement de, la... de l'île de Vassivière. Donc, on lui avait laissé, le EDF lui avait laissé le choix entre soit un pont, une passerelle entre Vassivière, l'île de Vassivière et Chassagna, ou l'île de Vassivière et l'accès à Beaumont-du-Lac. Et elle avait tout de suite opté pour Beaumont-du-Lac, tout simplement parce qu'elle voulait rester proche de ses ancêtres qui étaient inhumés au cimetière de Beaumont. Donc c'est ce qui a motivé son, son passage. Et d'autre part, c'était quand même, pour EDF, beaucoup moins compliqué parce que la profondeur du lac à cet endroit-là était quand même moins importante. Il y a une petite île au milieu, donc il y a un support qui dépasse sur, sur pilier. Par contre, cette passerelle a été, dès le début du lac, tout de suite, très très vite pratiquée parce que c'était un... une curiosité, mais très vite pratiquée également pour la pêche, parce que toutes les terres qui ont été inondées étaient des terres qui étaient cultivées, donc énormément de nourriture pour le poisson, de graines, de végétation, etc. Et qu'il y a eu un développement phénoménal du poisson, et qui dit développement du poisson, dit éventuellement développement du nombre de pêcheurs qui étaient là. Et je peux vous dire, et je me souviens très bien, que tous les, à touche-touche, toute la longueur du pont, il y avait un pêcheur avec des lignes. Il y avait parfois des lignes qui s'embrouillaient parce qu'ils étaient tellement près les uns des autres qu'il y avait des conflits qui parfois dégénéraient avec, au-delà de ce qui était nécessaire et avec des mots qui n'étaient pas forcément tout à fait audibles. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de poissons et ils s'en tiraient beaucoup. Et puis, petit à petit, cette ressource naturelle a disparu. Et malheureusement, il ne subsiste maintenant que des carnassiers. Alors qu'il y avait, à l'époque, beaucoup de truites, beaucoup de carpes, entre autres, et qu'il y avait de très belles prises. Et maintenant, on ne retrouve pratiquement plus que des carnassiers qui s'auto-alimentent entre eux.
Alors, et là, vous avez parlé de la pêche en ligne qui a été bon, menée un peu par la passerelle, tu vois, en profitant de ça. Mais par rapport à la pêche en bateau, tout ça, qu'est-ce que tu connais? Vous les pratiquez aussi à l'époque ou...
Oui, bien sûr, la pêche à partir des barques, de ces fameuses barques des sauveteurs du Rhône, se pratiquait de façon courante. Et c'était intéressant parce que, généralement, les carnassiers, notamment les brochets, venaient s'alimenter en petits alevins qui étaient plutôt sur les bords. Donc, en étant à une vingtaine de mètres, 20-30 mètres du bord, avec des lancers légers, on arrivait à prendre des bêtes qui étaient de taille très intéressante. La pêche, malheureusement, aurait besoin de... La pêche aurait besoin d'être ranimée, et pour ce faire, il y a eu un moment donné au centre d'art un artiste qui avait proposé quelque chose qui m'a paru assez génial parce que ça m'a rappelé les premiers débuts du lac. Alors, je reviens en arrière, les premiers débuts du lac, il y a eu des plaques entières de végétation, de prairies, qui sont remontées à la surface et qui ont perduré pendant 2 à 3 ans. Et qui étaient des refuges à poissons et qui leur permettaient de se nourrir également de cette végétation. Puis, c'est ce qu'on appelait des îles flottantes, a complètement disparu. Et que cet artiste avait proposé, mais avec un projet qui était très étudié, et des fondements, notamment au point de vue stabilité, pérennité, etc., avait fait un projet très abouti concernant des îles flottantes artificielles sur lesquelles on aurait pu installer des œuvres d'art. Et à titre personnel, Je dois dire que j'aurais préféré ce mode, enfin la mise en œuvre de ce projet, parce qu'il y a eu, il y en a eu d'autres, notamment à un moment donné, il y a eu un sous-marin au pied de l'île qui était un faux sous-marin, qui n'était pas forcément une œuvre d'art, et que là, au moins, il y avait à la fois la possibilité d'exposer une œuvre d'art et en même temps, en plein milieu de l'eau, donc de la protéger, et ceci avec la possibilité pour le poisson de se développer. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais le problème de Vassivière n'est pas un problème unique. Je sais que les lacs des Alpes qui ont été créés à peu près aux mêmes époques pour alimenter en électricité la France ont les mêmes phénomènes de marnage et qu'il n'a jamais été vraiment résolu. Mais ce projet aurait mérité au minimum, à mon sens, d'une mise en œuvre au moins expérimentale et certainement, compte tenu de la précision avec laquelle il avait été étudié, je pense qu'il était sans trop de risques.
Ok. Par rapport à la transformation des châteaux, est-ce que vous avez vécu aussi, tu vois, parce qu'il y avait en premier, bon, en 1800 quelques, les premières maisons qui étaient amenées par Ducourt, par les tours, voilà. Et si tu,
oui,
si
vous alors,
pouvez nous raconter un peu des...
Les transformations du château ont été, pour l'essentiel, assurées par... Louis Vassivière, qui était industriel lyonnais, mais très attaché, comme son père, à son pays, puisque son père, j'ai retrouvé sa trace dans un annuaire de 1868 à Lyon. Mais ils ont toujours fait partie de ces migrants qui étaient attachés et rattachés à leur terre et qui sont toujours venus et ont toujours essayé de développer tout ce qu'ils pouvaient à partir de ce qu'ils avaient pu connaître dans leur activité professionnelle, qui était le bâtiment. Donc, c'est surtout Louis Vassivière qui a construit deux tours. Il existe une tour ancienne qui était probablement un pigeonnier. À l'époque, les pigeonniers, c'était essentiellement, je dirais, utilitaire. Il a créé donc deux tours et il voulait en faire une troisième, mais il est décédé avant. Et sa fille, Jeanne Vassivière, qui a épousé Pierre Pascal, a construit cette tour carrée qui a été dessinée par son gendre, M. Salandrouze, qui était architecte et en même temps ingénieur, parce que c'est lui qui avait également créé des barrages, mais du côté d'Aubusson. La famille Salandrouze était une famille de tapissiers et surtout de lissiers et en même temps de fabricants de tapis. Donc ces transformations ont été faites, mais autant que je me souvienne, jusqu'en 1958, année de décès de ma grand-mère, il y a eu toujours à Vassivière, en permanence, une équipe de maçons. C'était la famille Bezeau. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer une personne qui était la fille d'un de ses contremaîtres. Et la famille Bezeau a œuvré tout le temps sur Vassivière parce qu'il fallait remonter un mur, parce qu'il fallait faire un écoulement, une rigole, une canalisation, etc. Enfin, il y a toujours eu des maçons. C'était dans les gènes, si je puis dire, de ma grand-mère qui avait vraiment le souci de toujours entretenir un maximum tout ce qui pouvait l'être.
Ok. Par rapport à l'activité dans l'île de Vassivière, quand les lacs étaient créés, il y avait des pastoralismes, il y avait des moutons, il y avait des chevaux, Oui.
Il n'y a jamais eu de moutons. Enfin, à ma connaissance, avec l'île, il n'y a jamais eu de moutons parce que c'était trop petit. Il y avait par contre des vaches. Il devait y avoir sur l'ensemble de l'île au moins 20-25 vaches, ce qui était déjà à l'époque un troupeau assez considérable. Il y avait également... C'était une économie très, très circulaire, très fermée, puisque en plus des vaches, il y avait des porcs qui étaient élevés, essentiellement pour la consommation des personnes, mais également, accessoirement, pour être vendus. On faisait beaucoup de veaux. Alors, il y avait les veaux de Saint-Étienne et les veaux de Lyon. C'est une, il y a une différence entre les deux. Le veau de Saint-Étienne va très vite allait très vite au pré, tandis que le veau de Lyon restait sous la mer et pratiquement à l'écurie, enfin à l'étable, jusqu'à son transfert pour abattage. Et donc le veau de Lyon ne buvait que du lait. Comme autre exploitation, il y avait bien sûr classiquement de la volaille et des lapins, mais rien d'autre. Et ça a été très compliqué au démarrage parce que les prés étaient plutôt dans les fonds de vallée et que ces fonds de vallée étaient alimentés par des eaux de ruissellement et que du coup, il a fallu recréer des prairies à des endroits qui étaient un petit peu des friches, des landes à moutons et qu'il a fallu transformer en prairies artificielles, notamment par exemple toute celle qui est devant le Centre d'art contemporain. Ça a été un très gros travail pour essayer de mettre ça en exploitation. Sinon, au point de vue activité agricole, il y avait bien sûr du blé, le blé, le seigle. Il n'y avait plus de mouture sur place, mais il était moulu à l'extérieur. Et puis, on faisait tout là-bas. Le four à pain a servi pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à la guerre. Après-guerre, il est arrivé les premiers boulangers qui faisaient leur tournée avec la camionnette. Donc quand le boulanger venait une fois par semaine, on entendait des grands coups de klaxon pour dire « j'arrive ». Et à ce moment-là, tout le monde se précipitait pour acheter son pain. Il y avait également, dans le même ordre d'idée, l'épicier qui venait et qui venait proposer ses biens aux gens du coin. Mais il était resté la tradition quand même de fabriquer et de conserver beaucoup de choses. Et quand je vous dis qu'on faisait tout, j'ai le souvenir de confection de boîtes de petits pois qui étaient soudées sur place à l'étain pour être conservées. Et puis il y avait bien sûr les bocaux en verre. Enfin, c'était l'époque où on gardait tout. Il n'y avait pratiquement aucun déchet. Et vraiment le déchet ultime, à part le fumier, je pense que tout était conservé parce qu'un jour ou l'autre, ça pouvait servir.
Comme on a dansé, que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs. Et pour autant, que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie.
On avait interviewé Pierre Luthi. Je ne sais pas si vous connaissez la vallée de Tissu. Il nous a raconté qu'en fait, pendant la guerre, l'île a servi un peu pour la résistance, comme opéra les châteaux, comme un peu, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire? Bon, il y avait...
Alors, ce que je connais de l'histoire, c'est surtout la partie, je dirais, la première prise de contact du maquis, qui est arrivé avec le colonel Guingouin, est arrivé avec ses hommes, et... a occupé une pièce du château. Et on a appelé ma grand-mère, et elle est arrivée, et au milieu de ces hommes qui avaient tous le fusil mitrailleur en bandoulière, et elle s'est adressée au colonel Guingouin en lui disant « Il est hors de question que je vous dise quoi que ce soit tant qu'ils n'auront pas baissé leurs armes. » Alors, les armes étant baissées, ils ont pu discuter, effectivement. Elle avait été réveillée, parce qu'ils sont venus très tôt le matin, elle avait été réveillée par ce qu'on appelait le régisseur, c'est-à-dire le chef d'exploitation de l'île, Jean Le Cournet, enfin qui n'était pas une île à l'époque, et il avait pris une échelle, il était monté face au volet pour taper au volet et réveiller ma grand-mère, qui était donc descendue saluer, enfin prendre connaissance du colonel Guingouin. Et là, le premier contact a été assez rude, mais en même temps, ils ont quand même, une fois, comme c'était deux forts caractères qui se sont affrontés, ils ont fini par, je dirais, reconnaître les uns et les autres la valeur de chacun et le respect de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu alimenter les troupes parce que ils avaient besoin de manger. Et tout simplement, donc il y a eu effectivement un épisode assez sévère. Je n'ai pas beaucoup d'autres anecdotes sur le sujet. Je sais qu'il y a eu des réquisitions qui ont été faites, réquisitions de chevaux, entre autres, et puis peut-être il y a les roues d'une remorque, d'une bagagère qui avait été prise, et j'avais eu le plaisir de remettre cette bagagère en place, mais c'était des roues de Juva 4. C'était un ancien modèle Renault qui datait d'avant-guerre. Et pour trouver des roues, ça avait été très compliqué. Et en plus, j'avais eu un deuxième souci, c'est qu'ils avaient emporté non seulement les roues, mais les boulons de fixation. Et que ces boulons, d'un côté, c'était un pas à droite, et de l'autre côté, c'était pas un pas à gauche. Alors que maintenant, c'est uniforme. Et j'avais eu beaucoup de mal à retrouver des boulons pour trouver le pas à gauche.
Ok. Et si on vous questionne par rapport au meilleur, au plus bel souvenir de l'île, bon, quand c'était déjà l'île de l'époque, une anecdote, un bel souvenir, une chose qui vous tient au corps, qui vous rappelle bien de toute cette époque, déjà quand l'île était créée.
Quand l'île était créée, j'ai quelques souvenirs, notamment de baignade, la dernière baignade, en tout cas pour ma part, dans mon souvenir, la dernière baignade dans la rivière, qui était quand même pas très chaude, mais même en plein été. Mais bref, j'ai eu le plaisir de retrouver pratiquement identiques les lieux où j'avais ce souvenir, avec même la végétation, qui était une végétation assez basse, formée par des aulnes, qui donc était une végétation qui demande beaucoup d'eau, et qui n'avait pas été coupée parce que suffisamment bas et suffisamment en creux, ça ne gênait pas la navigation. Donc ils sont restés, et j'ai retrouvé vraiment ce secteur complètement... En fermant les yeux, je faisais repousser les feuilles, et je me trouvais en train de me baigner dans cette eau. Des souvenirs, oui, il y en a beaucoup, évidemment, des souvenirs familiaux, des souvenirs heureux, des souvenirs plus difficiles, notamment lorsqu'il y avait un décès, c'était toujours quelque chose d'assez lourd, et c'était l'époque où on transportait le cercueil sur un char à bœufs. On mettait des crêpes noires sur les cornes des bœufs, et on mettait également, alors ça m'avait marqué, un bandeau noir sur les ruches, qui étaient des ruches en paille. Et elles avaient droit toutes à leur petit bandeau noir pour signifier qu'il y avait un deuil dans la maison. Des souvenirs heureux, c'était... Même s'il n'y en avait pas, c'était pas très giboyeux parce que le gibier ne restait pas, il partait. De temps en temps, on avait des migrations de sangliers qui traversaient le lac à la nage et qui venaient fouiner dans l'île. Et une fois qu'ils avaient trouvé ou pas trouvé, ils repartaient à la nage sur une autre rive. Il y avait quelques lièvres. Et il y avait essentiellement des lièvres qui sont restés, mais qui sont pas restés très longtemps parce que ils ont vite trouvé le chemin de la passerelle et ils sont passés de l'autre côté. Il y a eu quelques oiseaux migrateurs, mais sans plus. Essentiellement, il y a eu beaucoup de dégâts avec la myxomatose, à la fois dans les clapiers, mais aussi avec les écureuils. Les écureuils prenaient la myxomatose. Et on peut dire que maintenant, je pense que les écureuils se sont auto-immunisés de la myxomatose, mais on les retrouve maintenant tout à fait alertes et bien. Il y avait également, mais ça n'a jamais, on avait un hibou grand-duc que l'on mettait dehors et qui battait des ailes à l'aide d'une ficelle qu'on tirait, enfin c'est un hibou mécanique, pour essayer de capturer des prédateurs, des oiseaux de proie. Mais bon, ça n'a jamais été un grand succès. Par contre, le gros gibier, comme les sangliers ne faisaient que passer, le chevreuil, il n'y en avait pas. Les lièvres, il y en a eu très très peu, ils sont vite repartis. Quelques lapins qui s'étaient échappés des clapiers avaient fini par faire souche. Mais enfin, ils n'ont jamais été très très nombreux. Par contre, ce qu'il y a eu tout à fait au début de l'île, c'est le foisonnement à la fois des rongeurs et des serpents. Ce qui est tout à fait normal, parce que petit à petit, ils se sont retrouvés enserrés par l'eau. Donc, les rongeurs, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont été traités grâce à un produit qui a été fourni par le laboratoire Mérieux. Et ils se sont mordus entre eux. Enfin, c'était quelque chose qui les rendait très agressifs entre eux, ce qui est assez rare chez les animaux. Et du coup, les rats et souris se sont assez vite éradiqués. Et puis, il est resté les taupes. Et les taupes, ça a été une saga qui a duré très longtemps parce qu'il y avait quelques résistantes. Pourtant, il y avait quelqu'un qui était très, très féru en matière de piégeage sur l'île, qui s'appelait Jean Péchala, que les anciens ont pu connaître, et qui, lui, a eu beaucoup, beaucoup de mal avec les taupes, et qui, finalement, il n'y en avait plus qu'une qui le narguait. Et impossible de prendre cette taupe, il avait beau essayer tous les pièges possibles, et pourtant, il connaissait son affaire, impossible d'arriver à choper cette taupe. Et il a fini un jour par prendre le fusil et attendre que la taupe se manifeste et il a pu éradiquer la dernière taupe. Au niveau sauvage, il y avait parfois, mais alors je pense que ça a complètement disparu maintenant, des anguilles qui venaient. Et à l'heure actuelle, on n'a jamais entendu parler à nouveau d'anguilles dans le lac.
Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage.
Qu'est-ce que, si on vous demande par rapport à Jeanne Vassivière, qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle, comment elle était, son caractère, sa manière, tu vois, si on te demande, racontez-nous de Jeanne.
Jeanne Vassivière avait un attachement extrêmement profond pour Vassivière, pour ses ancêtres, pour son père, pour son grand-père, enfin pour toute la lignée des Vassivières, pour tous les gens qui avaient œuvré aussi à Vassivières. Et je dois dire qu'avec elle, elle a été vraiment un moteur et elle cherchait à développer tout le temps son île, à préserver. Elle avait vraiment un attachement. Elle habitait une partie de l'hiver, de la saison à Lyon. Et elle se faisait envoyer toutes les semaines un colis dans lequel il y avait au minimum du beurre de Vassivière, de la volaille de Vassivière, des œufs de Vassivière, etc., et des légumes. Ça partait par colis express. Je crois qu'à l'époque, l'épicier du secteur où elle habitait n'a pas dû la voir souvent, Sauf peut-être pour acheter de temps en temps du sel, et encore, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient fournir, parce que visiblement, tout ce qui venait de Vassivière était bien sûr sacré. Et j'ai le souvenir, quand on était enfant et qu'on allait la voir, on passait toujours par la saluer la cuisinière et puis son assistant, le valet de chambre. Et on avait toujours droit, le soir, à des œufs au plat, au beurre de Vassivière. Alors, inutile de vous dire que les œufs, on les voyait sous un bon fluide de beurre fondu et qu'on se régalait. Et bien sûr, quand on arrivait à la maison, pour pendre le potage et autres, on n'avait plus faim. Très rapidement, notre mère s'était rendue compte que c'était pas la peine de trop insister. Quand on avait passé avant saluer la grand-mère, on avait forcément pris un petit à-compte, avec également, parce qu'elle se faisait expédier, le pain, les tourtes de pain de seigle. C'était indispensable, parce qu'évidemment, on ne trouvait pas le même goût du pain à Lyon, et il fallait du pain de Vassivière. Donc les colis de légumes, de choux, de raves, tout était expédié avec soin, et pour elle, c'était indispensable. C'était un attachement. Elle a toujours essayé de préserver sa propriété, et elle tenait essentiellement à la conserver, je dirais, globalement, complètement. Évidemment, ça a généré quelques tensions en famille après son décès. Mais bref, avec le temps, les choses se sont apaisées, et c'est vrai que, économiquement parlant, l'île de Vassivière a toujours été, sur le plan purement économique, agricole, une catastrophe. Disait parfois mon père, c'est une propriété de rapport, parce qu'il faut toujours apporter quelque chose pour que ça fonctionne. Et c'était vrai, parce que la surface était trop petite, la mécanisation arrivant permettait de faire des surfaces beaucoup plus importantes, et qu'il n'était pas possible de laisser perdurer ce mode de fonctionnement. Alors après, faire du tourisme ou autre, faire un accueil touristique quelconque, il en était hors de question, parce que c'était pratiquement trahir les ancêtres, de transformer ça soit en maison d'hôte, soit en hôtel, soit tout ce que vous voudrez. Il y avait une certaine, balise morale qui faisait que c'était quasiment impossible. Il y avait même une actrice célèbre à une certaine époque qui avait demandé à résider, qui avait tourné dans le secteur et qui avait demandé à résider à Vassivière. Mais comme cette actrice avait une étiquette, si je puis dire, de moralité qui n'était pas tout à fait conforme à ce qui pouvait être souhaité, ça avait été refusé. Voilà, l'île de Vassivière. Il y avait également l'activité forestière, parce qu'il y avait des bois. Donc là, personnellement, moi, j'ai, derrière le centre d'art, exploité la forêt avec l'équipe des personnes qui étaient là sur place. Et vraiment, c'était une autre époque. On avait quand même une tronçonneuse. C'était quelque chose d'exceptionnel. Tronçonneuse qui est d'ailleurs d'un poids énorme. Et j'ai appris par la suite une tronçonneuse style qui s'appelait SM, et puis il y avait un numéro derrière. Et ce que j'ai appris, c'est que ce sigle SM plus un numéro d'immatriculation existe toujours. Et ça voulait dire, on ne parlait pas à l'époque de tronçonneuse, mais de scie mécanique. C'était la scie mécanique à un homme. C'était totalement nouveau. Et dans ce bois, j'ai appris donc à la fois à faire tomber les arbres exactement où il fallait, parce qu'il ne fallait pas abîmer les repousses. C'était vraiment de la dentelle. Et puis une fois par terre, il fallait couper les branches à la hache. Quand on avait fini de couper les branches à la hache, il fallait pendre l'écorsoir pour éviter que le bois bleuisse. Et puis une fois que le bois était à la fois ébranché et écorcé, il fallait le couper en billes d'un mètre, un mètre dix, je n'ai plus exactement la dimension, mais il fallait la marquer, et ensuite la tronçonneuse arrivait et on découpait ça à la tronçonneuse.
J'ai une question par rapport à la sonorité de l'île d'endroit. Est-ce que vous nous pouvez dire, soit poétiquement parlant, soit dans son son littéral, à quoi ça sonne l'île de Vassivière? C'est quoi la sonorité? Qu'est-ce que vous trouvez? Vous aimez la sonorité du lac et de l'île?
La sonorité, c'est-à-dire le renom, le...
Les sons qu'on écoute, qu'on entend.
Ah, le son que l'on entend. On entend essentiellement le vent, parce que il y a parfois des vents d'ouest qui sont assez, assez forts. Le vent dans les arbres, éventuellement. Les sonorités, c'était l'orage, parce qu'il y avait des orages terribles. Je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'orage vraiment très, très violent. Mais enfin, quand même, de temps en temps, il y a des orages qui sont assez sérieux. Quand la foudre tombe, ça fait du bruit et ça laisse parfois des traces. Et puis, il y a parfois les avions à réaction qui faisaient toujours beaucoup de bruit. Et puis... qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est à peu près tout. C'était très, très, très calme. Parfois le tracteur, mais enfin, ce n'était pas habituel. Par contre, c'est un passage aérien important. Pendant quelques années, j'étais à cheval à la fois sur Grenoble et sur Nantes. Et je prenais l'avion régulièrement entre Lyon et Nantes toutes les semaines. Et un jour où il faisait beau, il n'y avait pas un nuage, je me penche au hublot tout à fait par hasard, et qu'est-ce que je vois? On était pile au-dessus de l'île de Vassivière. Donc c'est vraiment un nœud de communication au-dessus de l'île de Vassivière. J'étais très surpris de la voir de si haut, j'ai bien, évidemment bien reconnu. C'est assez impressionnant de voir ça de très haut. Je ne pensais pas un jour avoir cette vision.
Non, je voulais juste demander à M. Côte, quand vous êtes à Lyon ou ailleurs, vous fermez les yeux, et c'est quoi les premiers sons que vous écoutez quand vous pensez au lac de Vassivière?
Les premiers sons, je pense que c'est le vent. C'est le vent qui souffle, c'est le clapotis de l'eau. Alors, le vent ne souffle pas forcément en tempête, hein, mais c'est le clapotis de l'eau aussi. C'est toujours impressionnant d'entendre à la fois le clapotis de l'eau quand on est au bord de l'eau et puis de voir les couchers de soleil, parce qu'il y a des couchers de soleil qui sont absolument superbes. On a vraiment une nature qui est préservée et qui a été préservée. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont très vite compris que même si le pays pouvait paraître avoir été un peu délaissé, il y a une préservation de la nature et un souci de la préserver qui est tout à fait exemplaire.
Est-ce que vous écoutiez de la radio à l'île de Vassivière à l'époque? Et qu'est-ce que vous rappelez quelle était la chaîne? Je ne sais pas, oui.
Alors, la radio, c'est une vieille affaire parce que... Alors, je ne sais pas en quelle année est arrivé en sus du courant du Moulin, qui est arrivé de tout début du XXe. Il y a eu une compagnie d'électricité qui délivrait du courant électrique alternatif, 25 périodes, donc c'est-à-dire il y avait un scintillement dans les lampes, mais ce courant était indispensable pour écouter la radio, parce que pour faire fonctionner les transformateurs des postes de radio, il fallait du courant alternatif. Donc cette radio fonctionnait, mais il fallait une antenne qui soit assez conséquente. Et il avait été tiré entre les deux tours qui sont face au bâtiment actuellement où il y a la boutique de Lille et tout le corps de bâtiment qui s'ensuit, la salle de réunion, etc. Il y avait une antenne qui avait été tirée entre les deux tours et qui descendait jusqu'à à l'époque, ce qui était le salon qui allait dans le prolongement du restaurant actuel. Cette radio, bien sûr, c'était quelque chose d'important parce que ça permettait d'écouter ce qu'on appelait le communiqué et c'était un lien avec l'extérieur. Mais c'était la seule prise, parce qu'on ne gaspillait rien, et je pense que ça, c'est dans l'esprit limousin, et ça a toujours perduré, et c'est bien. Pardon. On ne gaspillait rien, disais-je, et il fallait absolument consommer en priorité et absolument le courant du moulin, et que la seule prise qui fonctionnait alors, pour le courant alternatif, c'était la prise de la radio. Inutile de vous dire que la compagnie électrique ne devait pas avoir une grosse facturation parce que le compteur ne tournait pas beaucoup. Mais il y avait cependant des inverseurs. On pouvait à la fois, quand il n'y avait plus de courant du moulin, on pouvait repasser sur le courant alternatif, mais il ne fallait pas trop consommer. Donc la radio permettait quand même d'avoir un lien sur l'extérieur et sur le monde, tout simplement, parce que les journaux arrivaient par le biais du facteur. Et le facteur, c'était pas une mince affaire, parce qu'il venait de Beaumont-du-Lac, à vélo. Et vous connaissez les reliefs de la région, c'était plutôt rude et il arrivait vraiment fatigué. Et il était toujours accueilli avec plaisir parce qu'il apportait des nouvelles et puis il venait se restaurer avant de repartir. Et je dois saluer la mémoire de ce facteur, le père Pouillet, qui lui est venu un hiver où il y avait un bon mètre de neige, qui n'a pas pu venir à vélo, mais pour lui, le courrier, c'était sacré, et il a apporté le courrier à Vassivière avec un mètre de neige, à pied, il a mis la journée, mais il a apporté le courrier. Ça, je dois dire que quand on évoque parfois le service public et son importance, je ne m'empêche jamais de penser à lui, qui avait un sentiment du devoir et du service public qui était tout à fait exemplaire.
Dans la radio, vous avez dit que vous écoutez les communiqués, les infos, mais des musiques aussi. Et quelle musique vous pas souvent?
Peu de musique, parce qu'il y avait un piano dans la pièce où il y avait la radio, dans ce qu'on appelait le petit salon, et que ma grand-mère jouait très très bien du piano, et que de temps en temps elle se faisait plaisir et elle jouait un air de piano. J'ai très peu de souvenirs de musique, mais par contre, à part le piano. Et elle était parfois accompagnée de son chien, qui, lui, se plaisait à aboyer en même temps qu'elle jouait du piano. Je ne sais pas à qui le piano faisait le plus plaisir, mais bref, c'est un souvenir qui est très, très fort.
Vous vous rappelez des morceaux, à peu près, qu'est-ce qu'elle jouait, des chansons françaises ou des classiques
Elle jouait un peu tout, du classique, et puis des choses qui étaient, je dirais, de l'époque. Des chansons de l'époque, enfin pas des chansons, mais des. Parce qu'elle ne chantait pas, je ne l'ai jamais entendu chanter, mais des partitions de l'époque. Il y avait entre autres une chanteuse de cabaret qui s'appelait Miss Tinguette, qui était très connue, et il y avait quelques airs qu'elle jouait au piano avec plaisir.
Très bien. Et tu as d'autres questions?
Oui. Je prépare ça. Alors, je voulais savoir, Christian Cotte, vous êtes plutôt visuel ou sonore?
Ouf. Je ne saurais choisir entre les deux. Je pense que l'un accompagne l'autre.
Alors, c'est quoi votre rapport au son? Pour vous, c'est important ou pas dans oui. votre vie?
Oui, bien sûr. J'ai encore la chance d'avoir Louis à peu près en ordre de marche, si je puis dire. Et c'est important parce que l'échange avec une personne se fait essentiellement par la voix, mais également par l'attitude du visage. Donc les deux sont liés. On ne peut pas... je dirais le plus terrible, je pense, c'est soit de perdre la vue, soit de perdre l'oreille.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout écouter à la radio, que vous dites « Ah non, ça, je ne veux pas vraiment écouter ça, ça ne m'intéresse pas, ça m'énerve, ça, je n'aime pas. »
Pas écouter la radio, alors ça dépend. Parfois, il y a des débats qui, a priori, pour ma part, n'apporte pas grand-chose, sinon de faire plaisir à leur auteur. Donc là, je coupe assez rapidement. Mais c'est une question qui est très personnelle. Mais il y a parfois des personnes qui sont peut-être très, très fières d'être interviewées et qui étalent un peu leur, entre guillemets, leur moi. Donc ça me rebute assez rapidement et je coupe. Mais sinon, je suis pas, j'ai pas de genre particulier, ni positif, ni négatif.
Alors, est-ce que vous écoutez la radio ?
Oui.
Vous écoutez quoi comme radio ?
Alors, essentiellement, soit de la musique classique, que j'apprécie, soit essentiellement de l'information. Encore que l'information, je ne l'écoute pas très longtemps parce qu'il y a des chaînes d'information continue. Et que là, bon, une fois que tout a été dit, je dirais après, on en rajoute une couche, puis une deuxième, puis une troisième. Ça perd vite de son intérêt.
Et je voulais savoir... Au début, vous m'avez dit que vous avez... que vous avez des souvenirs et que vous avez su de l'existence des radios à Sivière depuis qu'il était tout petit. C'était comment ces premières fois que vous avez écouté de la radio, cette histoire que vous vous rappelez de ces débuts des radios il y a 40 ans quand même, hein ?
Et oui, le temps passe. Effectivement, il y a 40 ans, j'étais sur Chassagna. La première fois que j'ai écouté Radio Vassivière, d'abord, je ne sais pas à quelle date a démarré précisément la radio.
Et 1984.
Oui, mais le mois est le...
Juillet, 4 juillet.
4 juillet. Alors, ça avait été annoncé par voie de presse largement avant. Et je me souviens d'avoir été à Chassagna et on était vraiment très content de pouvoir écouter quelque chose de local. Radio Vassivière, c'était vraiment les tout débuts. Je dois dire que la réception était, ma foi, assez bonne et qu'on avait plaisir à avoir quelque chose de vraiment Vassivière local, que l'antenne était donc sur le toit de la mairie. Et que ça a été... Enfin, il y a eu des pionniers, notamment, si je me souviens bien, il y a M. Bordier, qui a été un des tout premiers à promouvoir la radio. Ainsi que, si je ne me trompe pas, il y avait également le docteur Ferrand, qui a tout de suite épousé ce projet et qui l'a appuyé. Et ça paraissait un peu fou, mais en même temps... Je dirais, il a fallu que toute l'énergie de ces personnes, dont je mesure maintenant l'implication, parce que s'ils n'avaient pas été des défenseurs de cette idée, et puis en même temps la supporter jusqu'au bout, eh bien, je pense que la radio ne serait pas née comme ça. Bon, c'est une radio locale et qui a tout son intérêt.
C'était dès l'époque de Vassivière Animation. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr, oui. Oui. Vassivière Animation, oui, effectivement.
Un des bébés de Jean-Louis Bordier aussi, Vassivière Animation.
Ouais. Oui. Et puis très vite, vous vous êtes tourné sur quelque chose, une activité locale. Et ça, c'est ce qui intéressait finalement les personnes. Parce qu'une activité... Bien sûr, une pointe d'activité nationale, surtout pour des événements importants, ça intéresse. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on attend d'une radio locale. La radio Vassivière a démarré très vite. Et je pense qu'à partir du moment où quelque chose est animé par des personnes qui sont convaincues sur un créneau qui n'est pas fantaisiste, qui a son fondement, ce que j'oppose à fantaisiste, qui a vraiment un fondement profond et puis qui est soutenu, eh bien à ce moment-là, c'est un projet qui a pratiquement toutes les chances d'aboutir. Dieu sait s'il y a eu des périodes un peu compliquées, mais l'avantage et l'honneur, si je peux dire, de ceux qui ont porté Radio Vassivière et qui la portent toujours, c'est que tout a été fait pour que ça perdure, qu'elle ne perde pas son âme, son essence première. Et ça, c'est tout à fait remarquable.
magnifique. Sur ce, c'est super, j'ai bien aimé. Tu veux rajouter quelque chose?
Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire vos noms? Je ne sais pas si vous voulez rajouter par rapport à ce que vous faites dans la vie, ou je ne sais pas, mais bon. Je ne sais pas, c'est une petite présentation.
Avec votre nom, votre prénom, oui. Et vous vous présentez à votre guise.
Donc, je suis Christian Côte. Je suis descendant des Vassivières par ma mère. J'ai vécu sur Lyon longtemps. J'ai travaillé dans un secteur qui n'est pas forcément très porteur au point de vue écologique, parce que je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai travaillé dans la chimie, qui a quand même apporté aussi beaucoup de bonnes choses. On voit parfois la chimie comme étant une bête noire, mais il faut voir aussi tout ce que ça permet de faire comme support, notamment sur la santé et autres. Et que les excès sont corrigés au fur et à mesure, comme dans toute industrie. Je suis profondément attaché à Vassivière depuis tout petit, puisque mon premier voyage a été sur Vassivière à l'âge de quelques mois, que je suis catholique, baptisé à Vassivière, et que j'ai toujours gardé le souvenir de quelque chose qui est profondément ancré, qui est presque un peu viscéral. Quand on parlait de Vassivière, en famille, on avait tout dit. C'était vraiment le Graal, si je puis dire. On attendait de pouvoir venir. Les liaisons n'étaient pas faciles, mais on mettait environ 6 heures pour venir. 6-7 heures, c'était un peu compliqué. On était parfois malade, les suspensions n'étaient pas ce qu'elles étaient, les routes non plus. Donc c'était un petit peu complexe. Mais c'était toujours un grand bonheur d'arriver. Et puis de voir notre grand-mère qui était toute contente de nous voir. Évidemment, on arrivait un peu pas l'eau parce que les derniers virages nous avaient laissé un peu l'estomac pas loin des lèvres, mais qui était toute contente parce qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on retrouvait de la couleur et qu'elle nous disait « Mais voyez comme le bon air de Vassivière vous convient !» C'était pas surprenant parce qu'on avait pu enfin souffler sans être secoué et ballotté par des suspensions un peu sur des noyaux de pêche. Mais bref, donc je suis venu tout petit, je suis resté jusqu'à pratiquement à la fin. J'ai été amené par ma profession, parce que je ne suis pas du tout chimiste, mais je suis issu de la partie financière et informatique maintenant de ce qui est devenu Arkema, mais qui était... Je vous passe toute la succession des sociétés, puisqu'il y a eu de très nombreuses fusions et changements de nom. J'étais moi-même donc contrôleur de gestion et j'ai terminé comme contrôleur de gestion de la division informatique mondiale d'Arkema. J'ai appris à défendre la chimie, mais en même temps à en reconnaître tous les bienfaits. Les excès ont été largement corrigés, sont encore corrigés maintenant. Je pense qu'il y a une attention. Je ne citerai pour l'anecdote qu'une chose, deux points que j'ai connus. La première, c'est que j'ai été à un moment donné dans une société où on fabriquait des additifs au plomb pour l'essence. Et tout le personnel était suivi pour le taux de plomb dans le sang. Il y a eu une année un contremaître qui a eu un taux de plomb qui a explosé. Il a été aussitôt retiré de la fabrication par sécurité. Et puis, en même temps, tout le personnel de l'atelier a été analysé. Et il n'y avait que lui qui était atteint. Le médecin du travail n'a pas pu conclure. L'année suivante, même problème. Lui avait un taux de plomb dans le sang qui était excessif, pas les autres. Question, le médecin du travail a beaucoup insisté, et finalement, à force de questions, il a fini par comprendre que ce brave homme était chasseur, qu'il avait l'habitude de faire ses cartouches, et qu'il prenait grand soin de récupérer les plombs dans son gibier, et que le fait de bien sucer ses plombs pour qu'ils soient propres, pour qu'il puisse les réemployer, suffisait par faire exploser son taux de plomb dans le sang. Ça veut dire qu'on a des moyens d'analyse qui sont excessifs, et quand on a des indications de groupements ou autres, et que l'on veut mettre un pic faire émerger un pic et dire c'est une catastrophe, il faut vraiment être assez prudent. J'aurai un deuxième exemple, c'est une usine qui fabriquait des produits chlorés, de l'eau de Javel, etc., à partir d'un produit tout à fait naturel qui est le sel de mer, et que dans cette usine, il y avait un système d'électrolyse avec du mercure, et que l'on était obligé de mesurer le taux de mercure naturel de la rivière avant l'usine et après l'usine pour savoir ce qui appartenait au site industriel, et qu'il suffisait que quelqu'un casse un thermomètre à mercure, un thermomètre médical, en amont du site, pour qu'on ait un taux de mercure qui explose. C'est pour ça qu'on mesurait avant et après, et qu'on avait des rejets qui étaient contrôlés, hyper contrôlés, et qu'on a quand même des points de contrôle très, très, très précis. On avait la même chose, même phénomène pour le pyralène. C'était un site où on fabriquait du pyralène, qui a quand même, il faut le reconnaître, mais ça on ne l'a jamais bien dit, sauvé énormément de vies, parce que tous les transformateurs qui étaient à l'huile minérale, lorsqu'ils explosaient par surchauffe, on brûlait beaucoup de gens, défigurait parfois définitivement des gens, et que le pyralène n'explosait pas, que la fois où la combustion du pyralène produisait des dioxines était quand même excessivement faible, et que à ce titre-là, je ne sais pas si je dois le dire, mais il y a prescription maintenant, donc je vais pouvoir le dire. Il y avait à Chassagna un transformateur au pyralène que j'ai eu le plus grand mal à faire remplacer par EDF, parce qu'il était quand même très proche du lac, et que je leur ai dit, si un jour il y a un souci avec ce transformateur, ça va aller se transposer dans les eaux du lac, et que ce n'est peut-être pas, au niveau de l'image de marque de RDF, la meilleure des choses. Bon, ils ont bien voulu accéder à la demande, et faire disparaître cette chose-là. Reste sur le plan sécurité, parce que j'y suis assez sensible, une ligne aérienne qui alimente Chassagna à 20 000 volts, et je me dis toujours, si un jour il y a un personnage qui se pointe avec sa canne à pêche en fibre de carbone, il risque fort d'avoir une décharge et éventuellement de rester sur place. Bref, ceci dit, ma profession m'a amené à la fois, je dirais, dans la gestion et le chiffre, mais également à suivre de très près toutes les évolutions des techniques, leurs implications sur le plan environnemental, et que ça reste un souci permanent parce que, je dirais, c'est des choses qui ont un fondement.
Christian Cotte, descendant dans la famille Vassivière, nous parle de cette époque au micro de Sébastien.
Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis. Les yeux qui valsaient dans les miens, on s'aimait jusqu'à la folie, et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs.